Bonsoir et bienvenue dans un monde nouveau, le magazine des décollages. Dans le dernier film de Bertrand Mandicot, After Blue, Paradisal, présenté en compétition officielle au festival de Locarno et qui était notre invité en début de semaine, les humains quittent la planète Terre, devenue inhabitable, pour aller s'installer sur une nouvelle planète. Ce rêve, aujourd'hui caressé par Elon Musk, le fondateur de SpaceX, d'une vie multiplanétaire, deviendra-t-il un jour réalité? La conquête spatiale sauvera-t-elle l'humanité? La prochaine étape pourrait bien être la planète Mars.
Ça fait 48 sols que j'ai planté mes patates. Des pommes de terre martiennes naturelles, 100% bio. Ça se trouve pas dans tous les supermarchés.
Alors fera-t-on un jour pousser des pommes de terre 100% bio dans l'espace comme Matt Damon dans Seul sur Mars, le film de Ridley Scott? Quels sont les enjeux de cette nouvelle conquête spatiale? On en parle avec notre premier invité ce soir, le spationaute français Michel Tonini. Elle préfère garder les pieds sur terre dans son dernier album Mother Nature. Elle fait un hymne en faveur de la planète, jamais en retard d'un monde nouveau. La chanteuse béninoise Angélique Kidjo s'est entourée dans ce dernier album des meilleur représentant de la nouvelle scène musicale africaine. Elle est notre deuxième invitée ce soir. If we choose love,
love, oui. France Inter. Sonia Khironi. Un monde nouveau.
Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, tout l'univers est ce soir dans un monde nouveau sur France Inter.
Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute.
Alléluia, pas d'auréole mais couronne sur ma tête. Je m'en suis sorti parce que j'ai un débrouillard. Je crois en Dieu et je crois en moi-même. Depuis le début, rien qui nous méprise. Négro, bien sûr que je préfère les miens. Je te déteste comme tous les gens qui me disent. J'aime pas le rap, mais bon, toi, je t'aime bien. On a fait le ménage et le sale boulot. Jamais écrit, on n'a jamais ragé. Parfois, faut accepter d'être sous l'eau. Être sous l'eau, c'est apprendre à nager. À chaque défaite, ils diront c'est ma faute. À chaque victoire, ils diront que je cruche. J'ai toujours refusé de juger les autres parce que je refuse que les autres me jugent. J'ai tellement rappé, désormais je cogne. Je veux le terrain, pas assis sur le banc. Les refrains disent souvent c'est Dieu qui donne. Ils oublient que c'est aussi Dieu qui reprend. Je rappe toujours avec canon sur la tempe. Et le combat continue. Demande au public s'il est prêt à jump. Neptune et le Terminus, ils peuvent nous mépriser mais pas nous maîtriser. Ils veulent dramatiser, je vais grave traumatiser. J'ai crisé, j'ai teasé, la bouteille j'ai brisé. Révolution sera pas télévisée. Elle sera téléguidée, respecte ma répute. Rêve de l'espace mais la Terre à tes pieds. En combi d'astronaute à l'arrêt de bus. Je confonds la NASA à la RATP. Pendant que la police d'ici se prend pour Robocop. Fils d'immigré aura toujours la dalle. En amour c'est dur de rester au top. Dur comme t'as fait les abdos à la salle. Je suis le daron de la matrice. Fume cigare sans cannabis. Ouh. L'Occident paiera ses dettes, sinon son futur c'est dead. Ra, ra, presque en solo, j'ai même pas grosse équipe. Ne parle pas trop ta morale, ton éthique. Cherche avocat pour prochaine polémique. Que la vodka vienne me rendre poétique. J'ai connu épreuve et guerre. L'amour, les océans de larmes. Je suis pas là pour un buzz éclair, mais pour l'infini et au-delà.
Loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, je rêve d'être astronaute.
Thank you. Astronaute, issu du sixième album de Youssoupha, Neptune Terminus, sorti en mars dernier. Le rappeur aurait rêvé de s'envoler dans l'espace. Pour notre invité, le rêve est devenu réalité le 27 juillet 1992. Michel Tognini s'envole pour la station Mir à bord du vaisseau Soyouz. Il devient le troisième Français sur 10 en tout à aller dans l'espace. 7 ans plus tard, il réitérera et prendra place à bord de la navette Columbia pour une deuxième mission. Bonsoir Michel Tognini.
Bonsoir.
Vous y avez passé précisément 18 jours, 17 heures et 46 minutes et vous nous racontez cette formidable aventure dans un livre, Un café dans l'espace, publié aux éditions Human Science. Pourquoi ce titre, Un café dans l'espace ?
Alors le titre est expliqué un petit peu dans ce livre, hein, c'est qu'on décolle de Baïkonour en Soyouz et on fait à l'époque un voyage qui dure 2 jours complets pour rejoindre la station, donc on est quand même fatigué. Et arrivé à quelques kilomètres de la station, on n'avait pas dormi pendant pratiquement 2 jours. Il y avait un blanc dans la communication radio et les Russes qui sont extrêmement hospitaliers me disent « Michel, tu vas arriver bientôt dans la station, qu'est-ce qu'on te prépare pour ton arrivée ? Un chocolat, un thé ou un café ?» Et j'ai trouvé ça extrêmement, un contraste extrêmement grand entre la fatigue que nous avions, l'impact de la mission, on devait faire le rendez-vous avec la station et puis la simplicité avec laquelle ils m'ont annoncé la demande de ce café dans l'espace.
J'ai dit que c'était un rêve pour vous d'aller dans l'espace, mais en fait, pas tant que ça.
Non, c'était difficile parce que finalement, les débuts à mon école n'étaient pas extraordinaires parce que j'ai commencé en Afrique et j'avais pas une bonne scolarité. J'étais pas motivé du tout. Mmh. Il a vu que j'arrive en France à l'âge de 10-11 ans et que je rencontre mon professeur de mathématiques dans cette petite ville de L'Haÿ-les-Roses qui, lui, m'a motivé et je suis passé en 3-4 mois de dernier en maths à premier en maths. Mmh. Et donc, j'étais un peu l'extraterrestre déjà pour mes copains d'école parce que j'avais mal commencé l'école et j'avais bien terminé. Et une fois qu'on a compris les mathématiques comme je l'ai compris avec ce prof et que c'est un jeu, eh bien, on tient la première place facilement pendant de nombreuses années.
Alors dans ce livre, vous nous racontez la vie de spationaute, l'intensité de la préparation physique, psychologique hein, aussi, l'adrénaline évidemment du compte à rebours sur le pas de tir, la gestion du quotidien à bord, du sommeil, de la manière dont vous vous nourrissez, de la manière dont vous vous lavez. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience de spationaute ?
Alors ce qui m'a le plus marqué avec le recul et après ces 2 vols, c'est le fait que lorsque nous volons dans l'espace, nous sommes à 400 km d'altitude, de hauteur, et on voit la Terre qui est extrêmement belle, mais surtout on voit la Terre qui est protégée par une petite couche qui fait à peine 100 km. Et c'est la première fois que l'on voit cette fragilité de cette atmosphère qui pourrait se détruire et qui pourrait faire que la vie disparaisse sur Terre. Donc on a vraiment plus conscience lorsqu'on est dans l'espace de la fragilité de la vie sur Terre.
Par la suite, vous êtes devenu le chef du Centre des astronautes européens et c'est vous, Michel Tognini, qui avez recruté Thomas Pesquet. Pourquoi lui et pas un autre ?
Alors c'était, bon, c'est pas moi, c'est mon équipe. J'étais le chef du Centre des astronautes à l'époque et j'étais venu à Cologne en 2003 pour organiser cette sélection d'astronautes. Donc on a mis pas mal d'années à organiser la sélection. Il y avait au total 8400 candidats. Au passage, d'ailleurs, cette sélection aujourd'hui a été refaite avec plus de 20 000 candidats. Donc, le métier d'astronaute devient de plus en plus attractif hein, pour les jeunes, et enfin pour les gens qui veulent le faire. Et sur cette sélection de 8400 candidats au départ, eh bien, on a fait quand même plusieurs tests pour que les gens diminuent progressivement de façon homogène. Et à la fin, il en restait une vingtaine qui avaient passé tous les tests avec tous les sacrements. Et après, évidemment, la différence entre chaque candidat, elle est minime. Moi, j'avais en tête qu'il fallait quand même qu'il reste des Français en finale. Donc, il y avait Pesquet parmi les Français. Mais il avait cette chose en plus par rapport aux autres de bien répondre, d'être patient, d'avoir des bonnes qualités que j'appelle souvent dans mes conférences le charme, donc la congruence, l'humilité, l'assertivité, la motivation. Tout ça était bien englobé dans son personnage et j'ai eu confiance dans Pesquet plus que dans un autre et donc et d'ailleurs je suis content parce qu'il a fait une première mission extrêmement bien réussie et en plus il a vraiment bien diffusé avec beaucoup de patience et beaucoup de sérénité tout ce qu'il a fait dans l'espace, la vue de la Terre, la vue aujourd'hui des aurores boréales, donc il partage son vol de façon parfaite et ça il le fait en au-delà de son temps de travail. Il faut savoir que lorsqu'il fait des photos et lorsqu'il tweet ou qu'il fait ses communications, c'est en dehors de son travail. Et je sais, par ma communication avec les gens de l'Agence spatiale européenne, qu'il est en avance sur son programme scientifique. Donc, il travaille plus que la norme. Et en plus, il communique très, très bien avec nous. Donc, pour moi, c'est quand même vraiment un très, très bon candidat. Je suis assez fier de moi.
Le parfait élève. On le salue, évidemment, Thomas Pesquet, s'il nous écoute depuis la Station Spatiale Internationale. On va l'écouter dans une vidéo qu'il a publiée le 16 février dernier sur son compte Instagram.
C'est assez incroyable comme le temps passe vite. Et quand je regarde derrière moi, tout le chemin parcouru, c'est fou de se dire que ça fait déjà presque 12 ans que je suis devenu astronaute. Mais si j'étais sélectionné au final aux côtés de 5 autres Européens parmi des milliers de candidats et de candidates, c'est surtout parce que j'ai tenté ma chance. Ça peut paraître bête, mais l'important c'est avant tout de pas s'auto-censurer, de candidater sans se rabaisser, de croire en soi. C'est le cas de trop de gens qui se censurent et pourtant qui pourraient tout à fait devenir astronautes, qui ont toutes les qualités.
Pourquoi ce message pour encourager les vocations? Est-ce que vous manquez de candidats
Alors,
aujourd'hui?
Son message, il est quand même extrêmement important parce qu'il parle de confiance en soi. Mmh. Et c'est vrai que on a tendance, d'une manière générale, nous terriens, à ne pas avoir assez confiance en soi. Ça vient de l'éducation. Et la confiance manque. Et quand je pense, par exemple, au terroir européen, même au niveau politique, eh bien, l'Europe n'a pas confiance en l'Europe. Mmh. Vous voyez, il y a un manque de confiance général. Les Français n'ont pas confiance en eux, alors que nous avons les meilleures écoles du monde. Nous avons une joie de vivre qui est excellente. On est admiré par le monde entier, mais on a un manque de confiance en soi. Et c'est vrai que lorsqu'on est astronaute, quand je me suis présenté moi, par exemple, je pensais jamais y arriver. Le premier test, d'ailleurs, je l'explique dans mon livre, premier test, je me suis battu pour arriver jusqu'au bout. Mais quand mes copains me disaient vous allez réussir, tu as réussi, t'es encore dans la boucle, j'y croyais absolument pas. Donc on s'auto-censure, il a un peu raison.
Au début du mois de juillet, les milliardaires Richard Branson et Jeff Bezos se sont tous les deux envolés à la frontière de l'atmosphère terrestre, hein, au-dessus de 100 km d'altitude environ. Une escapade qui a été très commentée. Avant de vous demander votre avis là-dessus, on va écouter le fondateur d'Amazon à son retour sur Terre.
On how it felt. Et oh my God. Concernant mes sensations, je veux dire, oh mon Dieu, j'avais beaucoup d'attentes et mes attentes ont été surpassées et de loin. Vraiment, l'apesanteur, c'était vraiment incroyable. J'avais réellement une sensation de quiétude très zen. C'était encore plus agréable qu'être dans une gravité normale. C'était vraiment une expérience très agréable. Et l'élément le plus profond pour moi, c'était observer la Terre. On est vraiment frappé par la beauté de cette vision. Lorsque vous allez dans l'espace et vous voyez une fine couche d'atmosphère, quelque chose de très fragile. Et sur la planète, nous endommageons cette fine couche d'atmosphère.
Jeff Bezos, donc, à son retour sur Terre au mois de juillet dernier. Qu'avez-vous pensé de cette aventure, Michel Tonini, et des critiques qui ont pu être émises sur ces milliardaires qui se paient une escapade dans l'espace plutôt que de régler les problèmes sur Terre?
Alors, Jeff Bezos est un homme qui a réussi par lui-même. Il a fait sa fortune lui-même. Il a choisi d'investir sa fortune dans l'espace. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment très, très bien d'avoir quelqu'un qui met son argent dans l'espace, qui croit dans le futur et qui a une vision pour le futur. Non seulement d'aller lui-même dans l'espace, mais de transporter d'autres personnes dans l'espace avec des moyens simples et des moyens qui sont quand même fiables. Mais aussi parce que il veut, comme tout le monde, faire des chaînes de satellites qui vont permettre à la Terre entière de communiquer. Chose qui est vraiment très importante, qu'aujourd'hui, il y a des régions de Terre qui sont complètement coupées de la communication. Et grâce à ces satellites qui vont être lancés par SpaceX et par Jeff Bezos, on aura ces communications importantes. En plus, cette fusée de Jeff Bezos, c'est quand même assez intéressante parce que c'est la seule fusée au monde qui est récupérable, fonctionnant à hydrogène et oxygène. Donc c'est la première fusée cryogénique récupérable. Alors que SpaceX, c'est quand même kérosène et oxygène. Donc c'est un concept différent.
On va en parler de SpaceX.
Alors, c'était critiqué, oui, parce qu'ils n'ont pas été tout à fait... Il y en a qui étaient à 80 km et pas 100 km. Mais l'effort a été fait, l'exploit a été réalisé. Mmh. Après, il va falloir travailler, bien sûr, pour augmenter l'altitude, pour augmenter la complexité des vols. Mais c'était une première pour chacun.
Et vous y croyez, vous, à ce tourisme spatial? Vous en avez rencontré plusieurs, oui. de ces touristes de l'espace. Qui sont-ils? Est-ce que n'importe qui, pourvu qu'il ait environ 250 000 euros à dépenser, peut se payer comme ça une virée dans l'espace?
Alors moi, j'ai travaillé surtout avec ceux qui ont volé dans les Soyouz. Hein, ils payaient au moins 20 millions de dollars. Mmh. C'était tous des milliardaires qui avaient commencé avec très peu de choses. Ils avaient monté des start-up. Ils avaient tous une fortune équivalent à environ 500 millions d'euros ou 500 millions de dollars. Et dans ces vols-là, moi, je leur ai donné des expériences à faire, des petites expériences à faire scientifiques, mais vraiment de tout petit niveau pour avoir des points de mesure supplémentaires. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dès le premier vol de Denis Tito, ces personnes-là sont des vrais métronomes. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire une opération à 16h16, eh bien, ou une autre à 17h44, eh bien, ils vont le faire pile à l'heure. C'était les plus ponctuels que j'ai jamais vus. Des gens qui ont été extrêmement fiables, qui n'ont jamais loupé une des expériences qu'on leur a demandé.
Alors, au-delà des aventures de ces deux milliardaires, aujourd'hui, c'est surtout Elon Musk qui a réussi à imposer SpaceX comme un acteur incontournable de la conquête spatiale. Elle est devenue l'année dernière la première entreprise privée à envoyer avec succès un équipage à bord de la Station Spatiale Internationale. De quoi donner des ailes à Elon Musk qui voit beaucoup plus loin.
Je crois que nous sommes réellement au début d'une nouvelle ère pour les vols spatiaux, d'une nouvelle ère pour l'exploration spatiale. Nous irons sur la Lune, nous aurons une base sur la Lune, nous enverrons des gens sur Mars et créerons une vie multiplanétaire. Ce jour marque le début d'une nouvelle ère pour l'exploration spatiale.
Elon Musk qui voit comme horizon 2030 pour la planète Mars, ça vous paraît jouable ?
2030, c'est dans 9 ans, c'est un peu compliqué parce que, comme il dit, il faut d'abord aller sur la Lune. On n'a pas encore l'infrastructure. Il y a des plans hein, comme la mission, la station Gateway qui va être autour de la Lune. Donc c'est vraiment extraordinaire d'avoir déjà une station autour de la Lune. Parce qu'on peut très bien imaginer qu'avec une station autour de la Lune, une station autour de la Terre, avec un simple remorqueur, on puisse passer d'une orbite à l'autre. Et ce scénario pourrait très bien aider pour aller également sur Mars. Donc le plan est très très bien, mais il faut le faire, il faut l'accomplir. Mmh. Et surtout, il faut se protéger de choses très importantes, comme les radiations, par exemple. Aujourd'hui, si on fait un voyage sur Mars, et d'ailleurs, j'ai discuté avec les gens qui ont envoyé le dernier robot sur Mars, et bien dans le voyage entre la Terre et Mars, nous prenons des radiations qui sont quand même insupportables pour l'humain aujourd'hui. Quand on est sur Mars, c'est un peu plus supportable, mais le voyage est quand même assez complexe. Et donc, on doit aller au-dessus des ceintures de Van Allen pour étudier ces radiations, les comprendre, se protéger des radiations. Ça va prendre quelques années de travail et ensuite, on pourra aller sur Mars, bien sûr.
Donc, on n'en est pas encore tout à fait à imaginer pouvoir faire pousser des pommes de terre sur Mars, comme Matt Damon dans l'extrait tout à l'heure de Seul sur Mars. Dernière question, Michel Tonini. Quel est, selon vous, l'objet du futur ou l'objet qui manque au futur ?
Alors l'objet qui m'intéresse, c'est l'objet qui pourrait permettre de contrôler le vecteur gravité. Vous voyez, par exemple, là, nous sommes assis sur une chaise. Eh bien, ça serait bien d'avoir un interrupteur dans la pièce. Je mets on, off. Si je mets on, la gravité s'arrête. Et là, on commence à flotter dans l'espace, comme dans une station spatiale. Alors, ça serait intéressant pour nous parce qu'on pourrait vivre le sentiment d'apesanteur et on pourrait s'en servir pour des choses très intéressantes, comme gagner du volume, gagner de la place dans cette pièce, par exemple. Mais aussi, ça permettrait de faire décoller les fusées de façon économique, alors qu'aujourd'hui, on décolle avec des moteurs extrêmement puissants, extrêmement dangereux. Donc, ce petit interrupteur on-off de gravité serait extrêmement intéressant pour le futur. Et ça va prendre encore des années, voire des siècles pour l'inventer. Mmh. Mais je pense que c'est bien d'avoir la vision, d'avoir cet interrupteur on-off de gravité.
Merci beaucoup, Michel Tonini, de nous avoir fait rêver ce soir sur France Inter. Un café dans l'espace, c'est donc le titre de ce livre dans lequel vous revenez sur votre aventure spatiale, publié aux éditions Humaine Science.
Come.
le groupe Parcells nous offre une véritable ode à la liberté et à la joie des retrouvailles.
Un monde nouveau. Sonia Khirouni sur France Inter.
Et on continue d'écrire le monde nouveau avec Sophie Comte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et directrice de la rédaction de Chute Magazine et Hervé Poirier. Bonjour Hervé, rédacteur en chef au journal Epsilon, le nouveau journal scientifique. Alors Sophie, on commence avec vous. Vous nous parlez aujourd'hui de QR code. Depuis l'extension du pass sanitaire, c'est ce précieux sésame. Eh bien, il est un peu partout.
En effet, les petits codes-barres carrés sont devenus aujourd'hui indispensables pour afficher votre passe sanitaire sur smartphone et entrer ainsi dans les bars, les restaurants ou pour vos trajets longue distance en train ou en avion. Alors, ce que l'on observe, c'est que l'usage de ces QR codes s'est véritablement démocratisé avec la pandémie de Covid-19 et notamment avec l'application Tous Anti-Covid. Et aujourd'hui, eh bien, même les restaurateurs créent leurs propres QR codes en guise et place à des traditionnels menus pour éviter tout contact physique.
Et pourtant, ce QR, il n'est pas si nouveau ?
Il n'est pas tout à fait nouveau, alors peut-être que vous en aviez déjà entendu parler avant la pandémie, sur des affiches publicitaires, on pouvait le trouver également dans des musées, des boutiques, sur des produits, des magazines. Mais en réalité, son histoire est plus ancienne que cela. Le QR code a déjà en fait 25 ans d'existence. Il a été créé par l'industrie automobile, par une filiale de l'entreprise Toyota au Japon en 1994. Mais il a fallu attendre les premiers smartphones à la fin des années 2000, début 2010, pour voir son usage se répandre partout dans le monde. Alors aujourd'hui, bien un QR code permet d'avoir accès à d'autres informations en ligne, et c'est ce qu'on appelle en fait du contenu augmenté ou encore phygital, un terme un peu barbare qui est la contraction de physique et digital.
Et qu'ont-ils de si particulier alors ces QR codes ?
Un QR code, c'est tout simplement un code barre, mais contrairement au code barre ordinaire, il est formé d'une image avec des motifs complexes qui permettent de stocker beaucoup plus d'informations, des informations qui ont la particularité d'être accessibles instantanément, d'où le nom QR qui signifie « quick response », pour réponse rapide en français.
Le QR peut donc contenir de nombreuses informations. Dans le cadre du pass sanitaire, de quelles informations exactement s'agit-il ?
Alors, dans le cadre du pass, votre QR code ne contient qu'un minimum d'informations, définies en accord avec la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est en quelque sorte le gendarme de l'Europe en matière de données personnelles. Donc on va y trouver évidemment la validité de votre passe sanitaire, ainsi que votre nom, votre prénom, votre date de naissance. En réalité, c'est le strict nécessaire.
Bien pratique, ces QR codes, mais est-ce qu'ils ont des failles ?
Alors si vous me posez la question du piratage, sachez qu'il est jugé quasi impossible, car la technologie développée est chiffrée et hautement sécurisée dans le cadre du passe sanitaire. En revanche, ce QR code pose question pour les personnes qui sont éloignées du numérique. Rappelons que 20% des Français et Françaises ne disposent pas d'un smartphone. À présent que son utilisation est en cours d'adoption, la démocratisation de cette technologie devrait se poursuivre avec de nouveaux usages. Qu'il est d'ores et déjà possible, par exemple, de faire des transferts de paiement via un QR code ou encore de localiser des objets dans la réalité augmentée.
Une réalité qui continue donc de s'augmenter avec ces QR codes. Merci beaucoup Sophie Comte. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et la directrice de la rédaction de Chute Magazine, dont le dernier numéro, avec ou sans contact, est disponible en kiosque, en librairie et sur le site chute.media. Hervé Poirier, c'est à vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Hervé, de bactéries responsables de la gangrène, de la tuberculose et d'autres maladies utilisées dans la lutte contre le cancer ?
Cette histoire, c'est la même que le film Les Sept Mercenaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Vaguement.
C'est l'histoire assez simple de méchants mercenaires qui sont enrôlés par de très très gentils villageois pour se défendre contre de très 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 méchants bandits mexicains. Donc ici, dans le traitement contre le cancer, le rôle de Yul Brynner, qui est le chef des mercenaires, est plutôt joué par la salmonellose. Steve McQueen, c'est plutôt la gangrène. Charles Bronson, la tuberculose. James Coburn, la listériose. Bref, on a tout un tas de méchants garçons qui sont enrôlés pour défendre le village qui est notre corps, soumis à l'attaque de très vilains bandits, le cancer, joué dans le film par Eli Wallach et toute sa troupe de bandits. Donc l'idée est vraiment celle-ci, on enrôle une bonne dose de pathogène, et avec ça on peut se débarrasser des tumeurs les plus récalcitrantes, tumeurs qui résistent aux immunothérapies et à toutes les thérapies actuelles.
Mais est-ce que ce n'est pas quand même un peu dangereux de s'allier à de si violents ennemis ?
C'est sûr que les villageois eux-mêmes dans le film s'étaient posé la question, et il faut bien faire attention. En fait, l'idée remonte au 19e siècle, dès les années 1880, il y avait un médecin allemand, Friedrich Felleisen, qui avait eu l'idée d'inoculer la bactérie responsable de la scarlatine pour lutter contre des sarcomes. Ça avait eu assez peu de suite, en particulier parce que ça semble un petit peu fou comme idée. D'ailleurs, David Bermudes, le chercheur qu'on a rencontré, qui a réactivé cette idée depuis une vingtaine d'années, nous a avoué qu'il s'est longtemps fait traiter de fou par ses collègues. Mais les résultats qui ont commencé à sortir sur pas mal de bactéries depuis 10 ans ont finalement poussé l'Institut National de la Santé américaine à lancer il y a 2 ans un vaste appel à projet Bugs for Drugs, c'est-à-dire des microbes pour faire des médicaments. Et aujourd'hui, rien que sur la salmonellose, la listériose et la gangrène, on a recensé une quinzaine d'essais cliniques dont les tout récents résultats nous ont beaucoup impressionnés.
Et comment est-ce que ça marche concrètement ?
Toujours un peu comme dans le film. Soit les bactéries qui sont inoculées dans la tumeur tuent les cellules cancéreuses, soit, et c'est sans doute le meilleur moyen, elles mobilisent, elles remobilisent le système immunitaire. Donc c'est une forme d'immunothérapie. Et dans le film, on voit bien que quand les mercenaires commencent à se battre et après les premières victoires, les villageois sont remobilisés, retrouvent courage et finalement sont prêts à se battre. Il y a encore des questions à traiter avant de pouvoir mettre ces premières autorisations de mise sur le marché. On pense pas avant 10 ans, en particulier la dose. Et l'autre grand défi, c'est la façon de l'administrer. Pour l'instant, c'est par des piqûres au sein des tumeurs. Mais ce qu'ils développent, et ils sont confiants, c'est de mettre juste des spores dans le sang, des spores de ces bactéries qui iront directement dans la tumeur pour défendre le village assiégé. Dans le film, à la fin, les bandits sont vaincus et les villageois sont libérés. Il y a quelques mercenaires qui ont laissé leur peau. On verra dans 10 ans, mais le nombre d'essais actuels peut nous faire penser qu'il y aura là aussi un happy end.
Et un espoir, en tout cas. Merci beaucoup Hervé Poirier pour ces explications, rédacteur en chef à Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Et merci à vous, Sophie Comte, directrice de la publication de Chute Magazine. Elle a chanté pour Barack Obama, partagé le micro avec Stevie Wonder, fait danser Nelson Mandela et tant d'autres artistes majeurs de la scène internationale depuis plus de 30 ans, chanteuse et artiste reconnue dans le monde entier. 4 Grammy Awards à son actif. Elle est aussi une citoyenne engagée de longue date, reconnue comme l'une des femmes les plus influentes du monde pour l'UNICEF, dont elle est l'une des ambassadrices. Elle lutte notamment pour l'éducation des filles en Afrique et milite pour les droits humains. En général, toujours entre 2 avions, elle nous fait le plaisir de passer ce soir par le studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Bonsoir Angélique Kidjo.
Bonsoir.
On est vraiment très heureux de vous recevoir ce soir sur France Inter dans Un Monde Nouveau, une émission qui vous va bien, Angélique, parce que Le Monde Nouveau, vous n'avez jamais cessé d'en faire partie. Dans votre dernier album qui est sorti en juin dernier, Mother Nature, vous êtes entourée de la fine fleur de la nouvelle génération des musiciens d'Afrique et de la diaspora africaine, on va en parler. Mais d'abord, Angélique Kidjo, j'ai vu que vous aviez un compte TikTok. Dans la dernière vidéo que vous avez postée, on vous voit danser sur scène avec cette énergie folle qu'on vous connaît. Les réseaux sociaux, pour vous, c'est un bon moyen de communiquer avec la jeune génération dont vous faites résolument partie?
Ben, c'est un bon moyen et puis il y a d'autres moyens aussi parce que les réseaux sociaux, c'est très important. Mais on a vite fait de se retrouver dans une bulle, en fait. Et moi, j'aime pas vivre dans les bulles. J'aime bien aller vers les autres, casser les codes, aller vers les gens. J'ai envie de voir les gens, de toucher les gens, de parler aux gens. Et les réseaux sociaux, c'est le début de cette conversation. C'est pas la fin en soi. Et c'est des outils aujourd'hui qui sont incontournables, en fait.
Et chacun de vos disques a toujours été une main tendu vers l'autre. C'est le cas encore avec ce dernier album, Mother Nature, dont on parle ce soir avec vous et dont on va écouter tout de suite un premier extrait. Africa, oh, yeah. Africa, oh, man, oh, yeah. Africa, 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 yeah. Fly for ya, because you are one of a kind. I'll always have you on my mind. Near or far, the others must be blind to not see how special you are. You are Africa. Yeah.
go cry for ya.
Corps ce soir dans le studio de France Inter Africa. Wine of a Kind, la déclaration d'amour à l'Afrique d'Angélique Kidjo, entourée dans ce titre du Malien Salif Keïta et du Nigérian Mr. Easy, une des figures de la nouvelle scène africaine pour ce morceau extrait du dernier album de la diva béninoise Mother Nature, sorti en juin dernier. Un album, Angélique, dans lequel vous êtes entourée donc des meilleurs représentants de la nouvelle génération de l'afrobeat, l'afropop, le dancehall, le hip-hop ou l'alt R&B. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle génération d'artistes musiciens africains?
Ben, c'est assez intéressant pour moi de voir comment ce que je rêvais de voir depuis longtemps, qui se passe aujourd'hui. Grâce à Internet, on a des artistes africains qui n'ont plus peur, qui n'ont plus cette crainte en se disant on va être signé par un major. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est des entrepreneurs, c'est des créateurs absolument pointus. Et travailler avec eux m'a vraiment rendu fière d'eux et enthousiaste. Parce que chaque fois qu'une chanson arrivait, c'était mais d'une perfection, il ne restait plus qu'à mettre la voix en fait. Partout dans le monde, ils ont compris qu'il est temps de se faire entendre et de se faire entendre dans une musique qui fait danser. Et qui a un message aussi.
Qui a un message aussi, notamment dans ce duo avec la jeune chanteuse nigériane très populaire en Afrique, Yemi Alad Dignity. Dignity can save you or kill you. Dignity, I wanna hold on to you. Dignity can hurt you or heal you. Dignity, I wanna hold on to you. Where you day, it's that day. Un titre engagé, Angélique Kidjo, contre les violences policières, en réaction à une actualité récente, à ce scandale qui a secoué le Nigeria il y a quelques mois.
C'était un moment assez incroyable, parce que Yemi Alade, c'est un artiste pour laquelle j'ai beaucoup de respect, parce qu'elle est professionnelle. Dans un monde d'hommes et vivant sur le continent africain, d'être aussi entrepreneur, d'avoir ce courage de dire les choses, de parler des sujets de la société, et que le SAR, c'est une partie de la police qui est contre la corruption, qui lutte contre les crimes. Mais eux, moi, pour moi, ce que je comprends, que ce soit ici ou ailleurs, parce que la violence policière n'est pas seulement au Nigeria, c'est partout. Et la question que je me pose en faisant cette chanson, c'est la police doit nous protéger et on doit respecter la police. C'est-à-dire que des deux côtés, il y a un problème de dignité. La personne qui décide d'être policier, c'est une dignité de sauver, de travailler pour la sécurité de son pays. Et nous, citoyens, c'est notre dignité de dire notre police est là pour nous. Et quand on la voit, on se sent en sécurité. Au jour d'aujourd'hui, cette dynamique, elle est complètement partie. Et moi, c'est pour ça que je parle de dignité. La dignité peut nous sauver ou peut nous tuer, peut nous guérir ou nous faire du mal. Ça dépend de comment on l'utilise. Et cette police dans le monde qui se retourne contre les citoyens devra se poser la question pourquoi ils mettent l'uniforme en fait, c'est tout.
Autre titre issu de cet album Angélique Kidjo, Do Yourself, avec Burna Boy, figure de l'afrobeat d'aujourd'hui, qui a passé votre voix, Angélique Kidjo, à l'autotune, ce logiciel correcteur de tonalité très utilisé aujourd'hui. C'est une première. C'est la première fois, hein, Angélique Kidjo.
Jamais j'ai fait ça.
On passe votre voix à l'autotune.
Ah, c'était très surprenant pour moi, en fait. Travailler avec Burna Boy, c'est un plaisir infini. Et c'est intéressant d'entendre ma voix comme ça pour moi-même.
On va vous écouter maintenant sans autotune. Angélique Kidjo, vous allez nous interpréter en live dans ce studio la chanson titre de l'album
Mother Nature.
Don't ever let them hurt you in any way. I'll never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rise and weave the wave. Don't ever let them hurt you in any way. I'll never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rise and weave the wave. Mother Nature has a way of warning us. A time bomb set on a lost countdown. Do you hear it? Will you find it? Won't you listen? Ame si ame ne va mi ale bene hihe ame. Ame si ame ke le igbanja edo la nusilo. Each one of us needs one of us. We need each other. We need each other now. We need each other now. Each one of us needs one of us. We need each other.
Angélique Kidjo, Mother Nature, extrait de l'album éponyme sorti en juin dernier, un hymne à la planète et à l'humanité. Angélique, merci d'avoir chanté ce soir en live pour les auditeurs de France Inter. Vous dites souvent que vos chansons sont votre seul moyen de faire passer des messages. Là, le message, c'est... il y a urgence, il faut se réveiller.
Le GIEC vient de le dire et j'ai peur que ma chanson soit prémonitoire et c'est terrifiant de se dire que ça fait des années que nous savons que nous les hommes, nous faisons du mal à la nature. Et on ne comprend pas qu'on ne peut pas exister sans la nature. Nous faisons partie de la nature, nous sommes un tout avec la nature. Tout le monde, les riches vont où ils veulent aller à Mars, ils ne pourront pas y vivre. Hein. Ils ne pourront pas échapper à leur responsabilité dans le fait que la Terre ne va pas bien. C'est ici qu'il faut trouver les solutions, ce n'est pas dans l'espace. Et moi, j'ai peur pour les enfants.
Les chansons, toujours comme vecteur de messages, comme avec cette reprise de Pata Pata que vous aviez enregistrée pendant la pandémie pour promouvoir les gestes barrières. Pata, version donc enregistrée pendant la pandémie pour promouvoir les gestes barrières. Quand la pandémie a éclaté, vous vous êtes dit, encore une fois, qu'est-ce que je peux faire?
Oui, parce que Pata Pata veut dire toucher, touch. Et souvent, on est dans nos bulles, comme je disais, internet, télévision et tout. C'est pas partout en Afrique. Il y a des gens qui vivent encore avec la radio. La radio est un médium très important en Afrique. Et cette chanson, elle est tellement connue en Afrique qu'avec UNICEF, on a eu l'autorisation de la famille pour mettre d'autres paroles dessus, pour dire, il faut se laver les mains tout le temps, ne pas se toucher le visage, garder sa distance physique. Et on peut toujours danser en utilisant les gestes de distanciation jusqu'au moment où nous pourrons encore faire la fête comme avant et être ensemble.
Vous avez été invité à chanter lors des festivités pour l'investiture de Barack Obama. Je le disais tout à l'heure, vous avez souvent chanté pour les grands de ce monde lors des cérémonies importantes, encore dernièrement pour la cérémonie de lancement des Jeux Olympiques. En France, vous avez participé en 2018 aux cérémonies du centenaire de la guerre de 14-18 et vous aviez beaucoup ému le public en chantant « Bléou », un hommage aux troupes coloniales ayant combattu pour la France.
Bléoui.
La musique, toujours comme porte-voix, Angélique Kidjo.
J'ai grandi dans une tradition orale qui est toujours accompagnée de chants. C'est-à-dire que les luttes de nos ancêtres sont racontées, après il y a une chanson qui est toujours la conclusion de cette histoire et qui nous porte en fait. Parce que la chanson, ça s'imprègne bien, ça se fixe. Et quand on chante cette chanson, on se rappelle de l'histoire. Et c'est comme ça que moi, tête toute petite, j'ai commencé à chanter parce que ces histoires-là me parlaient et que j'avais envie aussi, en écoutant d'autres musiques qui venaient du monde entier, répondre à ces voix qui arrivaient de partout.
Cette histoire, Angélique Kidjo, la vôtre, vous la racontez aussi dans un livre sorti en avril dernier dans la collection « Je chemine avec » du Seuil, un livre dans lequel vous revenez sur votre enfance, votre éducation, vos parents qui vous ont inculqué les valeurs de la tolérance et du féminisme. Et vous racontez « Je suis née dans une famille de 10 enfants où chacun, fille, garçon, avait les mêmes droits et les mêmes devoirs ».
Absolument. Ma maman disait toujours à mes frères « Le marché, c'est pas seulement pour les femmes ». Allez savoir le prix des choses. Parce que quand vous vous servez, il faut penser à la personne qui a travaillé. Il faut faire à manger. Ma maman disait à mes frères, si vous avez la chance de trouver une femme qui vous aime, c'est votre partenaire, c'est pas un esclave. Si vous êtes capable d'être indépendant, votre femme, son indépendance ne vous dérangerait pas. Que c'est à deux qu'on forme un couple, c'est à deux qu'on élève les enfants. Et qu'un homme indépendant est un homme complet. Parce que si ta femme n'est pas là, si elle est malade, tu peux t'occuper encore de la maison. Et c'est ce partage des travaux que notre mère nous a inculqués quand on était enfant. Je me rappelle mes frères qui essayaient de me donner des soupes, que je les fasse leur truc à la place. Je disais, hey, ça va quoi, moi je l'ai fait la semaine dernière, à toi maintenant. Donc c'est ça ma famille, mon père qui disait toujours à nous les filles, l'intelligence n'a pas de sexe quoi.
Je voudrais qu'on dise un dernier mot sur Jacob Desvarieux, le cofondateur de Cassav, qui nous a quitté le 30 juillet dernier, un séisme dans le monde de la musique. L'homme qui a créé le zouk, qui a inventé une musique nouvelle, un géant de la musique qui a fait retentir l'identité et la langue créole dans le monde entier.
Ah, Jacob, c'est quelqu'un d'incroyable. Quand on ne le connaît pas, on ne sait pas quel être profond il est en fait. Et j'ai eu la chance de connaître Jacob. Il est venu rester chez moi un peu à New York quand je travaillais sur un album. On a écrit des chansons ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. C'est son ouverture aussi, comme la mienne, qui m'intéresse, parce que l'identité ne peut exister, la réclamer ne peut exister que quand on reconnaît l'identité de l'autre. On était dans cette logique-là, tous les deux.
Est-ce qu'on a suffisamment conscience, ici, Angélique Kidjo, en métropole, de ce qu'on doit à Jacob Desvarieux ?
Non, pas encore, mais ça viendra. j'ai toujours de l'espoir, moi, je perds jamais l'espoir.
Toujours l'optimisme. Un exemple de conviction, Angélique Kidjo, qui a changé le réel à l'occasion des 40 ans de la loi Langue sur le prix unique du livre. On vous a demandé de choisir un livre ce soir.
J'ai choisi L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, parce que tout y est dit. Beaucoup de choses sont dites. La vie, le monde, la vie qu'on mène, c'est une aventure ambiguë. Rien n'est simple et rien n'est compliqué en même temps. Mais ce sont nos choix qui font que notre vie soit, elle est bonne ou pas. Et dans ce livre, la question de ce livre, c'est comment faire coexister les traditions et la modernité. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'algorithmes. Est-ce que l'algorithme va devenir la fin de l'être humain ou l'algorithme va servir à une meilleure humanité. À chaque fois, je relis ce livre, il y a des passages de ce livre qui sont absolument incroyables. Apprendre à lier le bois au bois, ça veut dire quoi? Apprendre à vivre avec l'autre et à créer un monde où chacun trouve sa place.
Merci beaucoup, Angélique Kidjo, d'être passée par le studio de France Inter ce soir. Mother Nature, donc je rappelle, c'est le titre de votre dernier album qui est sorti en juin dernier. Je signale également que vous allez retrouver le public parisien, là, bientôt à la rentrée.
Le 12 septembre.
Jazz à la Villette.
Yeah! J'ai hâte parce que j'en peux plus du Covid.
Le rendez-vous est pris, donc le 12 septembre, Angélique Kidjo, Jazz à la Villette. Merci infiniment d'être venue nous voir ce soir. Un monde nouveau, c'est toute une équipe, Gaëtan Collet à la réalisation, Marie Mougin et Mathias Volant à la programmation et la préparation de l'émission, et les précieuses Lily Cornillac et Anaïs Dinarc à la technique ce soir, Florian Dorimini et Benjamin Troncin. Un monde nouveau, c'est fini pour ce soir. On se retrouve lundi avec Mathieu Pot-Bonneville et Stéphane Fuenquinos. Après le journal de 19h, vous retrouvez Le Téléphone Sonne de Marion.